Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Diolfi accueillera les 25 et 26 septembre prochains la 5e édition de Les murs ne servent à rien. 2 jours de rencontres autour des films, de lectures et de conférences sur les questions de migration. Chloé Peterman, présidente de l'association Passerelle et programmatrice de l'événement, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. C'est la 5e année que vous menez ces rencontres à Diolfi. Les murs ne servent à rien. Quel est l'objectif de cette nouvelle édition et comment vous l'avez abordée, dans quel état d'esprit ?
Alors, on reste toujours dans la même idée avec les murs, qui est de faire un événement grand public sur les questions de migration en variant les médiums. Ça a toujours été notre idée de départ, qui était d'entrer dans la question migratoire, parfois par la presse, beaucoup de fois par les livres,
aussi
tout
par
d'abord
la radio.
Par les films, mais aussi par la radio, effectivement, puisqu'on aime bien faire des écoutes publiques de radio, qui est une chose qui n'est pas forcément très développée en milieu rural, mais avec cette collaboration avec vous, avec Radio-là, on aime beaucoup faire ça. Et cette année, on va effectivement de nouveau faire une écoute publique d'un documentaire radio. Mais la particularité de cette année, c'est qu'on va recevoir beaucoup d'invités. Donc ça va être un week-end qui sera beaucoup autour de la parole, à la fois avec des conférenciers, et aussi avec des invités avec qui on va avoir des formes de discussion à deux, puis ouvertes avec le public.
On va en parler dans un instant, effectivement, de ces nombreux invités que vous faites venir jusqu'à Diolfi.
Oui.
On est assez ravis et impatients de les rencontrer. Peut-être un petit rappel, bien qu'on se retrouve chaque année, mm-hmm. parce que tu fais partie, Chloé, aussi du CA de la radio,
oui.
De Radio-là. Comment sont nées ces rencontres ? Parce qu'elles ne sont pas nées ici.
Alors, les murs ne servent à rien, effectivement, c'est un projet qui est né en Suisse, quand je vivais encore là-bas. J'avais mon atelier dans un très gros lieu de culture alternative à Genève qui s'appelle l'usine Kugler. Et on a, avec Stéphanie Prisreni, une de mes amies artistes là-bas, monté une très grosse expo d'art contemporain qui s'intitulait « Les murs ne servent à rien » et qui était ponctuée d'une nuit de film, d'une nuit de lecture et d'une table ronde autour de ces thématiques. Et l'expo en elle-même était une expo d'artistes, soit eux-mêmes personnes en exil, soit des artistes qui ont vraiment un point de vue sur la question migratoire. Et moi, quand j'ai déménagé, que je suis venue m'installer dans la Drôme l'année qui a suivi, j'ai eu envie de reprendre ce projet sans la partie art contemporain, en tout cas pour l'instant, à voir si un jour ça ressurgit, mais la partie film, lecture à la halle. Et donc, c'est notre 5e édition diolfitoise.
Et c'est une gageure d'organiser un tel événement dans les conditions actuelles. Mmh. Ces questions de migration, est-ce qu'elles sont toujours aussi présentes dans les médias ou est-ce qu'elles ont été, invisibilisées, rendues moins visibles un peu du fait de la pandémie ?
Alors, j'aurais du mal à faire un panorama vraiment, évidemment, au niveau de toute la presse, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a largement compliqué encore plus la vie des personnes elles-mêmes en exil sur le chemin, évidemment, du fait de, certaines fois, fermeture des frontières. Mais alors là, l'exemple que je peux donner, c'est la mise en place, par exemple, du pass sanitaire sur la frontière entre l'Italie et la France et sur le lieu qui est le refuge de Briançon que je connais bien, ça a été une complication de plus absolument terrible. Au-delà de gérer une pandémie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand dans un lieu d'accueil qui est un lieu tout le temps en mouvement où des personnes arrivent tous les jours et repartent tous les jours, qu'est-ce qui se passe quand on détecte un cas, que cette personne, elle n'est pas censée rester à Briançon, est-ce que l'ARS veut bien isoler ces personnes, chose qu'ils n'ont pas fait. Pour l'associatif, en tout cas, c'était une énorme logistique qui s'est ajoutée sur l'accueil d'urgence qui, en lui-même, épuise pas mal de personnes déjà depuis un moment dans ce coin-là, quoi. Donc, après, la question du Covid en lui-même... Moi, il y a une statistique qui m'a beaucoup intéressée parce que je pense qu'elle révèle beaucoup de choses. Sur le temps du premier confinement, la mortalité, on le sait, a évidemment augmenté beaucoup dans la population générale. Elle a 2 fois plus augmenté sur les personnes nées à l'étranger. C'est-à-dire qu'on voit...
Qu'elle soit migrante ou non.
Qu'elle soit migrante ou non, c'est-à-dire ce qu'on appelle personne étrangère, personne née hors de France. Donc qu'elle soit en demande d'asile, qu'elle soit maintenant vivant en France avec des papiers ou pas, mais c'est-à-dire que c'est une population, je pense, où d'une part, il y a très certainement des comorbidités importantes, il y a un accès aux soins qui n'est pas toujours
qui
là.
Qui est limité.
Et en plus, c'est beaucoup des personnes qui étaient en première ligne dans tout ce qui est nettoyage, hôpitaux, et qui vivent souvent dans une grande promiscuité dans les endroits, dans les appartements, dans les lieux où ils vivent. Donc pour moi, c'est assez révélateur d'une... Voilà, ce Covid, il a révélé aussi la précarité, même au niveau de la santé, potentiellement, de ces personnes, quoi.
Cette cinquième édition des Murs ne servent à rien s'ouvrira le samedi matin sur une mini-conférence sur le droit d'asile. Une façon de rentrer dans le vif d'un sujet pas facile à cerner quand même pour le Pékin moyen. Chloé, t'es engagée, toi, dans l'accompagnement de personnes migrantes depuis bien longtemps. Qu'est-ce qui rend le droit d'asile aussi complexe à comprendre ?
Alors, qu'est-ce que je peux répondre ? C'est effectivement très complexe d'un point de vue juridique, même si... Quand on prend ce temps-là, qu'on l'a fait l'année dernière, j'avais fait ce petit moment, le droit d'asile pour les nuls, et cette année, c'est Julia qui va s'y coller. Quand on prend le temps d'expliquer, on arrive quand même à faire un chemin un petit peu simple pour expliquer aux personnes quel est en tout cas le parcours quoi, de la personne qui arrive en étant une personne migrante, qui ensuite demande l'asile, qui devient une personne en demande d'asile et qui, à la fin de ce processus, ben, soit va devenir réfugié, soit va obtenir la protection subsidiaire, soit malheureusement va être débouté et va devenir sans papier. On arrive à le rationaliser un peu. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est clairement un des droits qui évolue le plus tout le temps, puisque nos politiques aiment énormément chacun marquer de leur pierre ce droit-là, donc faire des changements. Mmh. Et du coup, même moi dans la presse, régulièrement, on remarque des erreurs, même les journalistes même, qui pourtant s'y intéressent, ont du mal à se tenir vraiment update quoi, sur ces questions-là. Donc c'est complexe du point de vue de l'asile, mais c'est aussi complexe parce qu'il y a cette idée du droit d'asile et du droit des étrangers qui se mixent, c'est-à-dire la question des sans-papiers qui, eux, sont irréguliers ici, c'est très différent de l'OFPRA, les conventions de Genève, devenir réfugié. Déjà, faire ce distinguo pour les personnes, souvent, ça les aide vraiment à comprendre un peu mieux la situation de ces gens.
Est-ce que tu crois qu'il y a aussi une espèce de volonté inconsciente collective de compliquer un peu les choses pour les rendre plus difficilement accessibles ou voire opaques ?
Oui. Je pense que, notamment pour les personnes qui vivent ça elles-mêmes, les personnes en demande d'asile, quand tu débarques là au milieu, c'est quand même une machinerie de malade, d'autant plus avec Dublin, quoi. Enfin, le système Dublin, quand tu essayes d'expliquer à une personne que non, oui, elle est arrivée par l'Italie, oui, tout à fait, maintenant elle est en France, mais en fait, non, il va falloir qu'elle attende 6 mois pour savoir si c'est ici où elle pourra demander l'asile ou bien si elle va être envoyée là-bas. Oui, parce qu'en fait, comme tu es rentrée en premier par ici, c'est là-bas que tu es censée demander l'asile. Enfin, il y a un truc, c'est vraiment une machinerie folle, et d'ailleurs, de plus en plus de gens s'en rendent compte, hein, pour Dublin, il y a énormément même de politiques qui disent non, mais attendez, là, faut qu'on arrête avec ce truc, quoi. Enfin, c'est une machine folle et qui fait que en plus les personnes du coup passent d'un pays européen à un autre. Enfin, ça crée une complexité tarée quoi et qui en fait est juste faite pour que l'Europe puisse se décharger sur les quelques pays d'entrée. Enfin, c'est clairement ça la stratégie quoi.
Alors, on le disait tout à l'heure, cette année, vous avez de nombreux invités extérieurs, réalisateurs de films, de radio, chercheurs, écrivains, enseignants. On ne va peut-être pas tous les évoquer, non. Mais on va rencontrer notamment Raphaël Kraft, grand reporter qui a documenté le parcours d'enfants qui se sont vus refuser l'entrée en France, notamment à travers une émission de France Culture qui va être diffusée samedi. Comment il a témoigné, Raphaël Kraft, de cette réalité et qu'est-ce qui t'a touché, toi, dans son récit ?
Mais ce qui est super intéressant avec le documentaire de Raphaël Kraft, c'est que il était en reportage sur cette frontière. Il s'intéressait particulièrement à cette question des refus d'entrée, ce qu'on appelle. Donc, puisque c'est comme toutes les frontières, la frontière entre l'Italie et la France à Briançon, ben, elle est surveillée en permanence par les gendarmes. Et lors de son enquête, il a maraudé avec des personnes solidaires de cette région et il était d'ailleurs accompagné d'une autre journaliste, une journaliste du Temps, une journaliste suisse. Et Ils ont trouvé des personnes côté français qui se trouvent étaient mineurs, quatre jeunes mineurs. Ils les ont donc fait monter dans la voiture, ce que font les maraudeurs dans cet endroit, puisque de toute façon, tu es côté français, donc tu n'es pas en train de faire passer la personne, hein, c'est légal. Et là, ben, ils ont été arrêtés par les gendarmes, et en fait, lui, il enregistre tout, quoi. Donc là, c'est hyper passionnant aussi d'entendre cette conversation où chacun essaye de défendre son bon droit. Et ensuite, il leur donne rendez-vous, il leur dit, écoutez les jeunes, si vous êtes renvoyés ce soir, si vous êtes repassés par les flics côté italien, on se donne rendez-vous demain matin, gare de Bardonecchia côté italien. Et lui, évidemment, qui a des papiers, peut traverser le lendemain et aller les retrouver à Bardonecchia. Et du coup, les jeunes vont leur raconter eux, de leur point de vue, comment cette nuit s'est passée pour eux, quoi.
Et on va aussi avoir une lecture de son ouvrage.
De son ouvrage qui est sorti cette année, qui s'appelle Les enfants de la Clarée et qui part de cette expérience, mais qui a donné une suite, je trouve qu'il a donné une suite super intéressante à cette nuit-là, puisque suite à cette rencontre avec ces jeunes venus de Guinée-Conakry, puisque énormément des mineurs isolés qui arrivent en Europe viennent de Guinée-Conakry, c'est un pays bien particulier, il a décidé de monter un projet pédagogique avec les instituts de l'école de Névache, lieu donc vraiment frontalier de cette région. Et les jeunes, les enfants l'ont entre guillemets mandaté comme reporter et lui est parti en Guinée-Conakry pour poser les questions des petits dans ce pays pour essayer de comprendre mais en fait pourquoi est-ce que ces jeunes sont amenés à faire cette grande route et à partir seuls sans leurs parents. Et du coup ils découvrent ce pays, la Guinée-Conakry qui est quand même un pays où la vie est très rude, marquée par une longue dictature, où les conditions sociales de santé sont très très difficile quoi.
Après ce moment avec Raphaël Kraft, on va rentrer ensemble, on va descendre un peu la montagne en fait et on va rentrer à l'intérieur du refuge de Briançon que tu connais bien toi et on va y rentrer avec Héloïse Paul qui a été bénévole depuis des années au refuge et réalisatrice qui a réalisé un film très subtil qui observe le lien entre accueil et bénévolat. Le refuge de Briançon est un endroit de cœur pour toi. Qu'est-ce que dit ce film de ce qui se passe sur place?
Ah ouais, moi j'avais vraiment très envie de montrer le film d'Héloïse, au-delà du fait que voilà, c'est devenu une très grande amie, du fait qu'on a toutes les deux été bénévoles dans ce lieu, mais je trouve que son film et la grande qualité de ce documentaire, c'est que pour moi, elle a vraiment réussi à capter l'âme de ce lieu. Il y a beaucoup de films qui sont faits sur cette frontière, plein hyper intéressants d'ailleurs, on en a déjà passé un d'ailleurs, mais elle a vraiment, c'est une sorte de huis clos en fait son film, elle a vraiment, du fait qu'elle était bénévole, elle avait souvent sa caméra avec elle, mais qu'elle ne sortait que quand elle sentait que ben là ça pouvait le faire de capter ce moment. Et du coup on est à la fois dans le fonctionnement, il y a des moments qui se passent à l'infirmerie où Solange l'infirmière est en train de soigner un jeune, de soigner les gelures d'un jeune, il y a des moments qui sont plus qui décrivent comment ce lieu a été acquis, comment ils y sont rentrés, comment ils l'ont transformé. Mais il y a aussi plein de moments qui sont juste des moments de vie, quoi, de ces personnes qui, pour certaines, ne passent que quelques jours, mais pour d'autres, sont en fait devenues briançonnées parce qu'ils vivent dans le squat d'à côté, mais ils passent beaucoup de temps en refuge parce que ça a été leur maison à un moment. Enfin, c'est vraiment cette vie et puis ce lien, justement, entre les bénévoles et les personnes migrantes, comment cet espace est devenu, un endroit où on sert des repas et où on fait des lits pour que les personnes puissent dormir et manger, mais où en fait des liens super forts se créent, quoi.
Un documentaire intitulé sobrement Le Refuge.
Exact.
Qui sera suivi d'une discussion avec Héloïse Paul,
réalisatrice.
Et aussi Pauline Ray, coordinatrice de ce lieu incroyable qui est le refuge de Briançon. Je saute un petit peu
dans le programme.
Je me balade dans le programme. Et dimanche matin, on va avoir un moment assez étonnant que j'aimerais bien que tu m'expliques. On va observer ensemble un siècle de photographie d'exil, une espèce de conférence visuelle, quelle drôle d'idée.
Ouais, tout à fait. Alors ça, c'était comme quoi il faut croire à ses rêves. Hein. C'était une sorte de fantasme que j'avais de faire une conférence sous forme de panorama commenté à partir du livre de Bruno Cabanne, donc qui s'intitule « Photographier l'exil ». qui s'appelle Un siècle de réfugiés, photographie et l'exil. Et cet homme, il a fait une analyse de la place que les personnes en exil ont dans la photo humanitaire. Et ça, sur tout le siècle. Donc ça veut dire qu'on part des guerres balkaniques jusqu'à aujourd'hui, les bateaux arrivant de Libye, quoi. Et ça balaye, du coup, ça balaye tout plein d'exils différents dans le monde, la partition Inde-Pakistan, la plus grosse migration du siècle, en fait, jusqu'à le col du Pertu, quand les Espagnols sont arrivés en France pendant la guerre d'Espagne. Donc, et lui, son propos, c'est vraiment observer ces photos et voir comment elle parle des personnes migrantes à un moment T, quoi. À un moment T.
Comment elle parle visuellement, c'est-à-dire comment elle met en scène, en fait.
Tout à fait. Comment il peut y avoir une mise en scène à la fois des personnes, à la fois du photographe ou bien de l'ONG qui porte ces photos-là, puisque des fois, la photo humanitaire, elle parle aussi pour le don, donc ça peut avoir un côté effectivement misérabiliste, un regard pas forcément très humain sur ces personnes-là, où on voit beaucoup des foules, pas forcément des gens. Et lui, après, justement, dans le bouquin et aussi là dans la conférence, finit par mettre un peu à la surface des photographes contemporains d'aujourd'hui qui, selon lui, ont un travail vraiment très humanisant et qui cherchent à se rapprocher de chacune de ces personnes et à parler vraiment de leur histoire à chacun, plutôt que de voir ces gens comme un groupe informel,
comme une personnification.
Peu flippant des fois, voilà.
Alors, je reviens à samedi soir. Du coup, on n'est pas très chronologique.
C'est pas grave. Il faut venir pour tout le week-end, de toute façon.
Faut quand même noter que c'est un programme extrêmement dense. On nage dedans,
oui.
Et on va s'y plaire beaucoup. Il y a justement une conférence sur les camps de réfugiés espagnols en France en 1939. Mm-hmm. À quoi se réfère cette conférence en termes de mémoire collective ?
Une niche historique, là. On prend vraiment un point précis qu'on va décrire assez précisément grâce à la conférence d'Alexis Buffet, qui sera ponctuée de photos d'archives et de lectures du bouquin, puisque lui, il a été l'éditeur scientifique d'un livre sur Vladimir Posner, qui était un journaliste russe antifasciste qui a énormément rayonné en 1939 dans les camps français qui accueillaient ces Espagnols exilés. Ces camps français qui n'étaient franchement pas un endroit où il était bon être enfermé. Hein. Les gens étaient derrière des barbelés sur des plages, au vent, à la pluie, avec à peine de quoi manger. Enfin bref, c'était... Et je pense que c'est... Moi, je trouve important des fois qu'on se... Tout comme la photo du col du Pertuis, là, dans le bouquin de Bruno Cabanne, faire que nous, aujourd'hui, on se souvienne qu'en 1939, c'est la France qui créait des camps, qui enfermait des Espagnols, qui sont quand même, je veux dire, nos voisins directs, qui ne sont pas des Noirs venus du Nigeria ou de Guinée, mais qui sont là, juste derrière la frontière. On les a parqués dans des conditions relativement inhumaines. Et qu'on se souvienne un peu de ça, je pense que ça peut faire un peu une prise de conscience importante, quoi.
Un pays d'exilés.
Ouais.
Et encore plus dans la Drôme aussi, avec les Huguenots, notamment.
Tout à fait. Nous, on a ce lien, c'est sûr, complètement.
Nous discuterons également dimanche midi avec François Gémen, auteur du livre « On a tous un ami noir » qui cherche à sortir des idéologies et des polémiques stériles. C'est quoi les questions d'identité collective qui sont soulevées par cet ouvrage ?
Alors le livre de François Gémen, je trouve qu'il est vraiment éclairant. Déjà j'adore le titre, hein, puisque c'est clairement évidemment une référence à cette phrase connue des gens d'extrême droite, ou en tout cas du... anciennement Front National, qui dans une interview arrivait toujours à dire « mais je suis pas raciste, j'ai un ami noir ». Donc il a bien retourné le truc, mais son bouquin est ultra factuel, beaucoup de chiffres. Hein. Bon, ça se lit pas comme un roman, hein. C'est vraiment un bouquin de géopolitique, hein, d'une certaine façon, même avec beaucoup de statistiques démographiques, et qui essaye de, avec calme, poser des faits pour essayer de contrer tous les préjugés qu'il y a sur les personnes en exil. Donc ça va de est-ce que les migrants nous coûtent cher, par exemple. Donc il s'appuie sur plein d'études statistiques qui montrent que ces personnes-là finissent toujours par travailler, par faire des boulots qui ne sont pas pris par les Français. Donc non, ça n'augmente pas le chômage. Enfin, tu vois, c'est, il prend ce temps de déconstruire petit à petit. C'est vraiment par chapitre, ça se lit super bien. Et c'est un peu une bénédiction, ce genre de bouquin. Tu l'emmènes dans ton repas de famille, là, où t'as quelques personnes à contrer et il y a des arguments. Et en même temps, je le trouve, il est assez humble. Ça, c'est moi, normalement, qui vais l'interviewer, là, pendant les murs, donc j'ai vraiment envie de l'interviewer sur ça. Il explique très, très bien en introduction. Il dit, mais en fait... Nous, les géographes, nous, les historiens, on essaye de contrer par des chiffres, on essaye de toujours ramener une vérité, mais sur cette question des migrations, on est dans un truc qui est tellement dans l'émotionnel.
Ouais, c'est ça.
Quoi qu'on fasse, même si on a les chiffres, on voit bien que, voilà, il y a un moment, ça passe pas, quoi. Mais il continue, la preuve, il vient à Dieulefi pour nous parler de son bouquin. Il est super content d'intervenir dans notre événement. Et il était la semaine dernière dans une émission de télé de hyper grande audience, hyper grand public, où franchement, ça doit vraiment être difficile de défendre cette position. Il le fait. Là, sur la question de l'Afghanistan, ça a été un des premiers à intervenir face à l'intervention d'Emmanuel Macron en disant non, qu'est-ce que c'est que ce président qui, le lendemain de l'intervention des talibans, dit on va bloquer l'immigration irrégulière. Enfin, le droit d'exil existe. Ces personnes ont très certainement droit à faire une demande d'asile et c'est l'OFPRA qui en décidera, c'est pas vous. Donc je trouve qu'il est très présent, c'est une chance parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très présent dans les grands médias et on l'aura, Dieulefi, et on pourra lui poser nos questions, donc c'est quand même génial.
Un programme vraiment incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué? Nous, on a picoré dans le programme et je voulais, avant qu'on se quitte dans quelques minutes, faire un clin d'œil à l'association Passerelle.
Oui, oui, tout à fait.
Évidemment, qui est l'association dont tu es présidente.
Oui.
Est-ce qu'il y a autre chose dans le programme que j'ai...
Je peux conseiller le film L'Europe au pied des murs. Mmh. C'est un documentaire très politique sur la politique de construction de murs, de fermeture des frontières de l'Europe. C'est vraiment ça explique cette idée qui se met en place de l'Europe forteresse et notamment l'influence, le lien avec le complexe militaro-industriel, les grandes sociétés de la sécurité qui en fait ont un pouvoir hyper important que vraiment on ne soupçonne pas au Parlement européen pour faire que des lois passent, pour fermer toujours plus les frontières parce que eux, ils vendent les barbelés, ils vendent les drones, ils vendent les murs. Donc c'est jackpot, quoi.
C'est tout le kit qui est proposé.
C'est le kit.
Alors c'est samedi et dimanche, hein,
oui.
Chloé, à quels horaires?
Alors le samedi on commence à 15h30, hein, on commence en milieu d'après-midi, ça s'enchaîne jusque dans la soirée et après le dimanche on commence à 10h. Avec, selon moi, le highlight, hein, la conférence de Bruno Cabanne sur les images d'exilés. Je pense que ça, c'est vraiment un truc à pas rater. Et on finit en fin d'après-midi, le dimanche.
Et ça se passe à la Halle, à Dieulefi. Merci d'être venu. Avant de nous
merci
quitter,
de
un
me
petit
recevoir.
Mot. Du coup, ce sera en entrée libre.
Oui,
au
avec
profit
Passe Sanitaire.
De l'association Passerelle, avec Passe Sanitaire, parce qu'on n'a pas le choix, malheureusement. Mm-hmm. L'association Passerelle, donc, tu la présides. C'est une association dieulefitoise qui a accueilli notamment et qui accueille une famille et qui accompagne une famille albanaise depuis quelques années et qui pense dans l'avenir ouvrir un centre d'accueil à Dieulefi. Où est-ce que vous en êtes? De quel soutien, au-delà de l'argent récolté pendant les murs ne servent à rien, vous avez besoin pour ouvrir ce centre?
On a besoin de gens qui savent faire ça, trouver l'argent pour des très gros projets. Et c'est des compétences qu'on n'a pas, il faut l'admettre. Et il y a des gens qui les ont sûrement, donc ils sont très très bienvenus pour venir nous conseiller au sein de l'association. S'ils savent faire de la levée de fonds à assez grosse échelle. Voilà.
Ok, bon, ben, le message est passé.
C'est ça.
Besoin de bénévoles peut-être aussi, soit pour l'événement.
Pour l'événement, les gens qui ont envie de soutenir l'événement, ils peuvent faire un gâteau et nous l'amener samedi matin. Ça, c'est simple, c'est
pragmatique.
Vite fait. C'est super pragmatique. Et par contre, si les gens ont envie de nous rejoindre pour l'accueil des personnes en exil d'un point de vue plus général à l'Asso Passerelle, ben, ils peuvent venir s'inscrire pendant les murs, venir nous rencontrer.
Je vous rappelle donc Les Murs ne servent à rien, édition 5, Adieu Luffy à la Halle, samedi 25 et dimanche 26 septembre. C'est à prix libre au profit de l'association Passerelle. Vous pouvez voir le programme sur la page Facebook de l'événement, Les Murs ne servent à rien 5, pour trouver ce programme qui est d'une richesse absolument absolue. Je te remercie
Merci beaucoup.
Chloé d'être venue et on s'y retrouve avec plaisir et on te souhaite de belles rencontres.
Radiola.media.